Vous écoutez
RMC. RMC, 19h30, 20h30, Bartoli Time, Georges Quirino,
Marion Bartoli.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission incontournable pour tous les passionnés de sport que vous êtes. Mes chers auditeurs, c'est bien évidemment Bartoli Time. Alors désormais, vous en avez pris l'habitude, nous serons là avec vous le samedi et le dimanche pour revenir avec précision et enthousiasme sur toute l'actualité sportive du week-end. La promesse de Bartoli Time, elle est double. Tout d'abord, c'est aussi votre émission. Alors n'hésitez pas à nous appeler au 3216, venir échanger avec nous. Vos messages également sur WhatsApp au 06 12 424 424. Et puis c'est aussi et surtout des invités exceptionnels. Et nous aurons la chance d'être avec Arthur Fils avant son premier tour face à Stefanos Tsitsipas en direct de l'US Open, où je suis d'ailleurs à côté d'Eric Saillot. Nous sommes dans les entrailles de ce cours Arthur H, et c'est le premier jour et c'est très animé, mais c'est le moment où j'accueille celui sans qui ce Bartoli Time du dimanche ne serait pas totalement le même. C'est Georges Quirino. Bonsoir Georges, comment vas-tu?
Bah écoute, très bien, moi je suis en France, hein, pendant que vous êtes
mais
du côté de l'Atlantique.
Mais écoute. Là,
très bien. Bon bah Marion, il faut le dire à nos auditeurs, à tes auditeurs, on a un événement ce soir, grâce à toi. Arthur Fils, celui que tout le monde veut entendre, évidemment, avant le début de cette US Open. On en a parlé la semaine dernière, vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati. Et ton invité et notre invité sur RMC dans Bartoli Time pour lancer cette US Open. Évidemment, vous venez poser vos questions aussi à Marion, hein, au 32-16, tu l'as dit, pour nous donner vos attentes sur le dernier grand chelem de la saison. Alors, tu l'as dit, Eric Salio est avec toi parce que lui aussi est arrivé à Flushing Meadows. Salut Eric!
Salut Georges. Salut Marion. Tu sais Georges que j'ai vu gagner Marion Bartoli en junior.
Oui.
Ah oui. Quelques années, elle a pas bougé.
En 2001.
Elle n'a pas bougé.
Ouais. Ok. Mais du coup, tu l'as vu gagner en junior. Mais du coup, c'est pour ça qu'on t'entend comme si t'étais dans ta cave là. Tu vas m'arranger ce micro et nous dire surtout.
Si tu veux les quelques coulisses du branchement du boîtier de Eric, c'était assez folklorique. J'aurais dû filmer et le poster sur les réseaux sociaux.
Marion,
bon, finalement, je l'ai pas fait.
Techniquement, j'ai aucun doute sur toi, que ce soit pour la radio. Et pour le tennis, pour Eric Salio, j'ai toujours eu quelques doutes. Eric, Arthur Rinderknecht est sur le court actuellement, le français face au japonais Shimabu Kuro. Entrée en lice, un peu difficile. Hein.
Compliqué, un set partout entre Arthur Rinderknecht et ce japonais très spectaculaire. Le français va peut-être quand même prendre le troisième set puisqu'il mène 4 points à 2 dans le tie-break du troisième, mais j'ai pas envie de dire que c'est laborieux, mais c'est
surtout... Il a servi pour le set, il s'est fait breaker.
Ouais. C'est un match très dangereux.
On suit ça avec vous, évidemment, en fil rouge. Hein, et pendant 2 semaines, Eric, tu es sur place, Marion aussi. Clôture de la 2e journée de Ligue 1 ce soir, tu l'as dit, Marion, Monaco-Marseille, 20h45 sur RMC, on sera à Louis II avec nos envoyés spéciaux dans un instant. Sans recrue, l'OM de Genesio peut-il être ambitieux? Est-ce que la saison de l'OM se joue dans les 48 heures qui arrivent? T'en penses quoi? Oui ou non, Marion?
J'ai bien l'impression, moi je suis très très inquiète pour Bruno Genesio, je veux surtout pas qu'il parte, donc j'ai vraiment hâte d'entendre les supporters, les fans de l'Olympique de Marseille, parce que au vu des déclarations et des communiqués de presse, je t'avoue que j'ai connu communiqué de presse un peu plus rassurant que celui donné par Bruno Genesio, donc je suis assez inquiète.
On vous attend au 32-16, supporters marseillais, venez partager votre avis avec Marion. Et puis c'est le choc du week-end, l'abandon de Tadej Pogacar sur la Vuelta après sa lourde chute hier, sa fin de saison est compromise. Son patron d'équipe chez UAE, Mauro Gianetti, vient de nous reprendre, il sera là tout à l'heure, Marion, avec toi, avec nous, pour nous donner les dernières informations. Mais donc, du coup, la une de Bartoli Time, vous l'avez bien compris, se passe aux États-Unis.
RMC, la une de Bartoli Time.
Où tu te trouves, Marion, pour le début de l'US Open, donc le dernier grand chelem de la saison. On l'a dit, celui qui est très attendu à New York, c'est Arthur Fils, premier joueur français à remporter un Masters 1000 la semaine dernière à Cincinnati depuis Joe Wilfried Tsonga, 12 ans auparavant. Arthur, 11e mondial, qui va commencer demain face au grec Stefanos Tsitsipas, 53e mondial sur sa route. Il pourra avoir Lechka en 16e, Shelton en 8e, Alcaraz en quart. On va en parler ensemble tout à l'heure, mais celui qu'on voulait aussi absolument entendre, bien sûr, et vous aussi, je l'imagine, c'est Arthur Fils qui est avec nous dans Bartoli Time, Marion.
Exactement, Georges. Alors, tu sais bien que Bartoli Time, c'est l'émission des grands champions. Et donc, j'ai trouvé un grand champion ici à l'US Open, dans un couloir. Je l'ai tiré par le bras, j'ai dit, Arthur, tu viens dans Bartoli Time. Il a répondu présent. Donc, déjà, je le remercie énormément parce que je sais qu'il est extrêmement sollicité.
Normal.
Et puis surtout, aussi, félicitations de vive voix pour ce magnifique titre en Masters.
Merci.
Le premier depuis.
Merci,
Joe Wilfried Tsonga, tu atteins grâce à ça ton meilleur classement. 11e mondial, tête de série 10 à l'US Open. Bonjour Arthur, yes. Comment vas-tu?
Salut, ça va plutôt bien, hein. Et toi? Écoute, ça va nickel. Moi, je te vois enquiller les 7. Je te vois faire un set d'entraînement avant-hier soir, sur le Arthur Ashe Stadium. Alors, Georges, tu n'étais pas au courant. En fait, il y avait une petite exhibition qui s'appelait Stars of the Open. Et normalement, ce genre d'exhibition, c'est réservé aux Américains, aux joueurs archi demandés. Et donc, je vois Arthur Fils sur la programmation. Et là, je me suis vraiment dit qu'Arthur avait totalement changé de dimension. En plus, il a découpé son adversaire en face. Donc, comment tu préparais ce petit moment assez sympa sur le Arthur Ashe et puis ta semaine en général, Arthur?
Non, franchement, c'était cool. C'était une bonne expérience. C'est rare qu'on ait pas mal de temps pour jouer sur le Ashe comme ça. Donc, faire un set d'entraînement, franchement, c'était cool. Puis j'ai fait une bonne semaine d'entraînement aussi. Je me suis entraîné avec des très bons joueurs. Je me suis entraîné avec Carlos, avec Ben. J'ai joué aussi avec Brandon. Franchement, c'était au top. Donc, en pleine forme et puis prêt pour jouer à New York. Hein.
Alors, il me semble que tu as fait un petit match d'entraînement avec Carlos Alcaraz. Est-ce que tu peux nous donner le score? Je le connais, moi, mais j'aimerais l'entendre de ta propre voix, s'il te plaît.
Non, je peux pas te le donner, celui-là. Je peux pas, ça restera entre
nous. Disons que ça s'est bien passé. Ouais, on va dire que ça s'est bien passé.
Ouais, ouais.
Voilà, ouais, exactement. Cool.
Ouais, non, mais en gros, ça veut dire quoi? Que si jamais tu nous donnes le score, on va s'enflammer, c'est ça? Donc on fait attention.
Non, non.
Non, mais bon, c'est assez d'entraînement. C'est d'entraînement.
Voilà.
Donc on va donner les noms entiers, Ben Shelton et Brandon Nakashima, pour les auditeurs peut-être qui connaissent un peu moins le tennis. Alors bien évidemment, Arthur, ton adversaire, c'est Stefanos Tsitsipas. Tu l'as affronté cette année au tournoi de Miami. Ça s'était extrêmement bien passé pour toi. Uh-huh. C'est quand même un ancien membre du top 10, un joueur qui a remporté le Masters de fin d'année, qui a été plusieurs fois en finale au tournoi du Grand Chelem. Tu abordes ce premier tour comment?
Il va falloir que je sois bien concentré, parce que comme tu as dit, ça a été un excellent joueur. Il joue encore très très bien au tennis. Après, en général, j'aime bien le jouer, mais je sais qu'il va arriver sur le terrain, il va vouloir me battre, il va se donner à fond. Donc là, en plus, ça va être la première fois en Grand Chelem qu'on joue, donc ça va être un match qu'il va falloir que j'aborde très sérieusement et que je fasse au mieux.
Arthur, donc tu sors de cette semaine absolument fantastique à Cincinnati en battant Frances Tiafoe en finale, mais en battant Coboli, vainqueur de Roland-Garros, en 2-7, à battant Tirante qui avait battu Novak également en 2-7. Tu prends ta revanche sur Demi-Nord qui t'avait battu à Rotterdam, tu lui mets 2-7 également. Leshka, pareil, cette fois-ci en 3-7, mais tu prends ta revanche de Miami. Donc en fait, tu bats plein de joueurs contre qui t'avais perdu au début d'année lorsque tu revenais de blessure. Cette fois-ci, c'est toi qui les bats. Est-ce que ça change quelque chose dans ta tête à la bord de ce dernier grand chelem de l'année? On sait que t'en as dû malheureusement rater deux à cause de blessures, ou finalement ça change rien et c'est qu'une étape sur ton chemin de progression vers ce titre de grand chelem que tu recherches?
Ouais, bah c'est sûr que c'était une très bonne semaine. Après, est-ce que ça change quelque chose dans ma tête? Je pense pas, parce que j'ai battu des joueurs, des excellents joueurs, des très très bons joueurs, mais c'est des joueurs aussi que je sais que je suis capable de les battre. Je pense que avant d'avoir joué tous ces joueurs, je les avais déjà battus au moins une fois, si je dis pas de bêtises. À part Tirante, parce qu'on ne s'était jamais joué. Et Hanfman, si, j'avais déjà gagné. Donc voilà, je suis rentré sur le terrain et sur toutes ces confrontations, je savais que j'avais mes chances. Et puis voilà, ça s'est bien passé pour moi, ça s'est bien déroulé, c'était une très bonne semaine, donc très content. Mais ça va pas, enfin ça change pas grand chose dans le fait de mes prochains objectifs, quoi.
On est avec Arthur Fils dans Bartoli Time sur RMC. Arthur, il y a une phrase que tu as dit la semaine dernière quand tu étais sur ce tournoi qui nous a tous beaucoup marqué. C'était sur le fait qu'il était important pour toi de respecter ton rang désormais. Un bon US Open, pour toi, c'est quoi? C'est quoi respecter ton rang à l'US Open dans la tête d'Arthur Fils?
Le problème, c'est que voilà, je connais mon rang lorsqu'on fait les tournois au meilleur des 3-7, enfin les tournois normaux, mais en grand chelem je connais pas encore mon rang, malheureusement, parce que j'en ai pas joué. J'ai joué que deux grands chelems un grand chelem juste Wim sur les deux dernières années, donc je le connais pas trop. Après voilà, je vais essayer de faire au mieux, je vais essayer de continuer sur la même lancée, de prendre match après match, et puis voilà, on va voir, mais c'est sûr que j'ai des bonnes cartouches à jouer.
Bon, et en tout cas, ce qui est bien, Arthur, c'est que tu nous mens pas. On sait très bien que t'es à New York parce qu'on entend les embouteillages derrière toi. Et on y est là. Non, mais là, tu vois, là, les auditeurs et auditrices, ils sont à New York là. Ils ferment les yeux.
C'est horrible. Il y a tout le monde qui klaxonne autour de moi. C'est horrible.
Mais ouais, mais on y est. Mais c'est ça qu'on demande, tu vois. C'est ça
mais
aussi,
oui,
être un joueur à US Open. On est dans les embouteillages.
Exactement.
Bon, Mario.
Alors, Arthur, c'est vrai que moi qui te connais assez bien, qui connais ta structure, je sais aussi d'où viennent tous tes progrès et cette confiance accumulée. Est-ce que tu pourrais quand même, toi, le raconter aux auditeurs qui peut-être te suivent un peu moins tout au long de l'année? Finalement, ces derniers mois, qu'est-ce qui a changé pour toi? Comment t'es revenu de cette blessure qui était quand même vraiment compliquée à gérer? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, t'es aussi fort?
Bah, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement. Je me suis beaucoup entraîné. Bah, si on prend à partir de Roland l'année dernière, j'ai pas mal changé. J'ai changé pas mal de choses. J'ai changé un peu mon staff. On a agrandi un peu l'équipe. On prend un peu plus soin du corps aussi. J'essaie de pas jouer toutes les semaines. Et puis après, voilà, pour parler des derniers mois. Je suis désolé, ça klaxonne. Mais pour reparler des derniers mois, c'est vrai que je me suis beaucoup beaucoup entraîné après WIM, parce que quand je suis arrivé à WIM, j'étais pas encore prêt malheureusement. Mais après WIM, on a fait un gros bloc d'entraînement, parce que j'étais un peu court encore à WIM. Et on s'est dit que de toute façon j'avais pas le choix, fallait pas mal s'entraîner. Et après que j'allais être prêt pour la tournée américaine. Sûr qu'à Washington j'étais un peu court encore. Mais après, quand je suis arrivé sur les deux Master 1000, je me sentais de mieux en mieux. Et puis, j'ai fini assez bien à Cincy.
Alors, Arthur, moi, ce que j'adore dans ta démarche, c'est qu'on sent à quel point tu mets en avant la valeur du travail. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir regarder quelques vidéos de tes entraînements, justement en préparation à ton américaine, où tu allais chercher des balles sur le terrain d'à côté. Donc, tu jouais quasiment en défendant sur deux terrains par rapport à un seul. Et ça montre à quel point, justement, tu es conscient qu'au plus on s'entraîne dur, au plus, finalement, on va avoir des résultats en match. Donc aujourd'hui, tu en as parlé un tout petit peu, tu l'as évoqué, il y a ce fameux format des 5-7 en tournoi du Grand Chelem où tu as peut-être un peu moins de points de repère que sur des tournois normaux semaine après semaine. Mais tu fournis également aussi tout le travail pour justement avoir maintenant ces résultats en tournoi du Grand Chelem. Est-ce que tu te sens désormais suffisamment renforcé sur le plan physique pour ça y est, être prêt à enclencher en tournoi du Grand Chelem?
Non, c'est sûr que physiquement je me sens bien, on bosse énormément, on s'est bien préparé ici aussi, on a beaucoup bossé en gym, sur le terrain. C'est vrai que je suis bien mieux que ce que j'étais les saisons auparavant. Après, on va voir ce que ça donne. C'est facile de dire ça maintenant, je ne suis pas encore sur le terrain, mais quand je serai sur le terrain, on va voir jusqu'où je vais réussir à.
En tout cas, tu
viser,
te donnes tous les moyens possibles.
Ça va être cool.
Et c'est ça,
voilà, je me donne tous les moyens, c'est ça le plus important.
On est avec Arthur Fils dans Bartoli Time sur RMC. Arthur, t'as gagné un Masters 1000, t'as le droit de klaxonner, si j'ai pourquoi on te laisse passer à Manhattan. Hein. T'as un statut à respecter
oui,
aussi sur la route.
Hein.
tu vois, n'hésite pas. Hein. Oh, les gars, vous savez comment je suis à l'ATP maintenant. tu peux le faire. Arthur, quand t'as gagné la semaine dernière, t'as écrit sur la caméra, on l'a tous vu, qui va parler maintenant. C'était une réponse pour toi aux critiques qu'il peut y avoir, qui peut-être t'ont touché. À quel point pour toi les critiques dans ta carrière, et on aime bien parler souvent avec les sportifs aussi de ça, est-ce que c'est un carburant pour toi, ou est-ce que c'est un truc qui parfois aussi, voilà, on est tous humains, peut faire mal?
Non, je pense que c'est plutôt un carburant. Après voilà, les critiques ça existe, c'est normal. Je pense que tout le monde a un avis sur la manière dont je joue au tennis, tout simplement. Après voilà, ce qui est toujours un peu plus agaçant, c'est les critiques sur ma personne. Ça, c'est des choses qu'on n'apprécie pas forcément, que j'apprécie pas. Mais bien sûr, après, toutes les critiques sur mon jeu, je les prends toutes. Et puis c'est ça aussi qui me permet de progresser, parce que j'ai envie de mieux faire au quotidien. Et puis voilà, c'est comme tu as pu dire, c'est un carburant.
Ouais, bah justement, sur ça, Arthur, c'est vrai que bah, voilà, quand on est français et quand on gagne en tennis, il y a énormément d'attentes, parfois excessives. Hein. On le dit aussi en vélo, par exemple, où il n'y a pas eu de vainqueur depuis le Tour de France de Bernard Hinault dans les années 80. Tu n'as que 22 ans. Parfois, les critiques sont dures avec toi. Est-ce que toi, tu es dur avec toi-même aussi? Parce qu'on le sent, ça, tu as cette ambition que tu oses exprimer. Le premier à être dur, c'est toi, en fait, avec toi-même. On sent.
Non, moi, je suis très dur avec moi-même. Ouais, je suis très, très dur avec moi-même. Et puis, si je le suis pas, j'ai mon équipe qui n'hésite pas. mais en général, ils en ont même pas besoin. Voilà, je suis assez dur avec moi-même. Et puis, j'essaie toujours de faire au mieux. Donc, Donc ça va, j'arrive à me pousser.
Marion.
Alors Arthur, moi d'abord, avant même ma dernière question, j'adore ta personnalité parce que j'aime les vainqueurs et je trouve qu'au contraire, très souvent en France, on prend ça pour, entre guillemets, de l'excès de confiance ou parfois de l'arrogance. Alors moi, je trouve que c'est ni l'un ni l'autre, c'est simplement avoir conscience de ses moyens et puis surtout viser très haut. Donc je t'ai toujours encouragé, tu le sais, et je le ferai jusqu'à ta dernière balle et jusqu'à ton dernier match de toute ta carrière. Il y a un moment qui m'a beaucoup touchée, parce que tu sais que je suis proche de ton papa aussi et ta famille, c'est une histoire aussi de père en fils. Moi, c'était mon papa qui m'entraînait, donc forcément, c'est des relations qui me touchent. Quand tu as gagné à Cincinnati, tu es sur le banc, la première chose que tu as fait, c'est appeler en visio ton père. Quand tu vois où tu étais il y a un an pile, blessé, pas pouvoir jouer, être dans l'attente, pas savoir exactement ce que tu avais aussi, quand tu te vois un an après avec tout ce que tu as vécu, traversé, mais aussi des moments de joie exceptionnels comme la semaine dernière, cette incroyable capacité de rebond que tu as, est-ce que tu es quasiment surpris d'être arrivé aussi vite ou non, finalement, tu es sur ta lancée?
Surpris, pas forcément. Voilà, après c'est vrai que c'est bien et que ça va, c'est une progression qui est assez rapide quand même, mais pas surpris, parce que voilà, je sais à quel point on a beaucoup travaillé avec mon équipe, je sais qu'on a fait beaucoup de sacrifices, donc les résultats au bout d'un moment ça arrive, mais c'est sûr que je suis assez content.
Je rappelle simplement, parce que bien sûr les gens vont parler de ce titre à Cincinnati, mais tu as fait 5 en Master 1000, 5 fois au minimum, quart de finale ou mieux, ça n'était plus arrivé également depuis Joe Tonga. Donc une régularité exceptionnelle. Et puis un autre titre que tu as obtenu à Barcelone sur un ATP 500. Donc tu as déjà un ATP 500 et un ATP 1000 cette année. Donc c'est déjà une saison extrêmement bien remplie. Alors bien évidemment, je sais que tu ne veux pas t'arrêter là. On te souhaite bien sûr le meilleur. On te remercie encore une fois d'être venu dans Bartoli Time sur RMC. Je sais que tu fais très très peu de médias. Donc merci du fond du cœur de l'avoir accepté. Comme d'habitude, je reprends derrière toi. Et puis au taquet. Come on.
Ok. Merci beaucoup. Merci à tous.
Merci Arthur.
Come on, Arthur Fils.
Merci beaucoup, arrêtez avec nous.
Ciao.
Arthur Fils a été l'invité exceptionnel de Bartoli Time sur RMC ce soir. Vous l'avez compris, on le retrouvera demain sur les cours. Hein. Arthur Fils pour son entrée en lice face à Tsitsipas, le 53e mondial. Voilà, Arthur Fils que l'on attend avec des références sur les grands chelems. Son meilleur résultat, on rappelle, c'est un 8e de finale. Il n'a jamais passé le 2e tour à l'US Open. Mais vous l'avez entendu, voilà, il veut essayer de trouver des repères dans ce grand chelem américain. On va revenir dans un instant. On va vous présenter dernier majeur de l'année avec Eric Salio, avec vous au 32-16 dans un instant. Et puis on va retrouver Marion dans un instant aussi sur RMC. À tout de suite.
RMC, 19h30, 20h30, Bartoli Time, Georges Quirino,
Marion Bartoli.
19h50 sur RMC, votre Bartoli Time. Voilà, rentrée, là, vous êtes en train de tout préparer peut-être. Et Marion, vous savez, à l'US Open, c'est une méga star. Hein, donc elle est là, droite à gauche. On va la retrouver dans un instant. Bien sûr, c'est ça quand on gagne un grand chelem, hein, les amis. Forcément, on est demandé. Et Marion nous a permis d'avoir Arthur Fils. On va la retrouver dans un instant, bien évidemment. On ira à Louis II aussi, bien sûr, parce que vous savez, c'est votre grande soirée de Ligue 1 sur RMC, l'After Live. Au stade Louis II pour Monaco-Marseille, coup d'envoi 20h45. On va parler du mercato marseillais, notamment au 32-16 avec vous. Mais d'abord, donc l'US Open a débuté aujourd'hui. On reste aux États-Unis. Eric Salio, notre voix du tennis, est toujours là avec nous. Alors déjà, parce qu'il y a toujours un Français sur les cours, hein, Arthur Hinderknecht, qui est quand même pas mal accroché pour son entrée en lice.
Alors, il y en a deux, précisément.
On va
revenir après.
Mario, c'est bien joué, c'est ça? C'est pour ça?
Non. Il n'y a pas trois des légendes ici à l'US Open.
Ah bon?
Non, c'est il y a qu'à Wimbledon qui font ça.
Mais ça se fait avant, ça.
Non, Arthur Hinderknecht, ça va beaucoup mieux. Il est en train de valider sa qualif pour le deuxième tour, puisqu'il mène 2-1, 6-7, 6-2, 7-6. Et surtout, il y a 3-0 au quatrième set. Je pense que le japonais Shimabukuro est en train d'abdiquer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Sur un court voisin, c'est mal embarqué pour Terence Atman, qui a débuté son match depuis une vingtaine de minutes face à Raimé Mounard, l'Espagnol. Il y a 5-2 pour l'Espagnol. Et puis, dans quelques minutes, entrée sur le Arthur H. d'Hugo Gaston, qui va défier Daniil Medvedev.
Ah ouais, sur le central. Combien de places déjà, la capacité du Arthur H?
23 123.
Incroyable, c'est un colisée.
Hier soir,
oui, t'as eu du temps en arrivant. Voilà, c'est le dernier grand chelem de la saison. Eric, tu vas être sur place pendant deux semaines pour suivre les aventures les plus lointaines possibles, on l'espère, d'Arthur Fils. Tiens, Tiens, déjà, peut-être pour nous planter le décor, on rigolait là en disant Marion, elle est très demandée à l'US Open. C'est un peu le grand chelem strassé paillette, hein, quand même, hein, raconte-nous.
Oui, d'abord c'est un stade immense, hein, c'est un site immense avec beaucoup de place pour les fans. C'est le chelem du bruit, parce que Arthur va le découvrir demain après-midi sur le court, le Stadium Louis Armstrong. Il y a un brouhaha permanent. C'est-à-dire que les gens, ils sont là comme un spectacle. Ça n'a rien à voir avec Wimbledon.
L'arbitre, il dit jamais s'il vous plaît. Enfin, en américain.
Il dit. Mais les gens n'écoutent pas, ils sont en train de manger leur burger et c'est un brouhaha permanent, à tel point qu'une fois Karen Garcia était allée voir l'arbitre au bout de 3 jeux, elle dit mais c'est toujours comme ça ici, et l'arbitre lui dit bah oui, c'est New York, Caroline, c'est New York, c'est comme ça. Donc il va falloir qu'il s'habitue, Arthur, parce que c'est un cours qu'il ne connaît pas. C'est seulement son 3e US Open, hein. À chaque fois il avait perdu au 2e tour, il a joué sur des petits cours annexes. Là c'est une enceinte de 10 000 places, donc il va falloir qui tiennent compte de ça, parce qu'en face, il passe, il y a beaucoup plus d'expérience que lui. Mais c'est c'est le bruit, c'est les odeurs, puisque certaines joueuses se sont plaintes déjà de, c'est vrai qu'il y a une odeur de weed, comme on dit.
Tu nous le dis tous les ans, donc ça se confirme, en fait.
J'y peux rien, on sait qu'on est à côté du Corona Park, et les gens qui travaillent à l'US Open, quand ils prennent leur pause, ils vont de l'autre côté des grilles, et puis voilà, ils allument un petit pétard, et ça se propage sur tout le court 17.
Bon,
le court
17 est terrible. Tu restes à l'intérieur de l'US Open si tu veux de Flushing Meadows, hein. Tu vas pas du tout au Corona Park à côté, t'as quand même tu représentes la boîte, hein, avec Sagno sur place.
C'est perturbant pour moi, j'ai jamais fumé de ma vie, je t'avoue que
tu finis le tournoi, t'es un peu high, quoi. L'US Open qui est un grand chelem qui va être très ouvert cette année, alors chez les filles et chez les garçons. On va commencer par les garçons, t'as parlé d'Arthur Fils. Yannick Sinner n'est pas là, hein, ils vont jamais se rencontrer en grand chelem cette année, Sinner et Alcaraz, parce qu'Alcaraz lui est de retour, le tenant du titre, après 4 mois d'absence. Comment il va, Carlitos? Il est en forme, il est à 100%, il a une nouvelle coupe de cheveux, il est bien sapé maintenant.
Ouais, il a une nouvelle coupe de cheveux, l'an passé il était rasé, là il a laissé pousser comme un Playmobil. Les bruits sont pas terribles. J'ai quelques indices ici qui me disent que ses séances d'entraînement sont pas extraordinaires. D'ailleurs, Arthur Fils l'a pas dit, mais il lui avait collé 6-1.
Ouais, on a bien compris, hein. Ouais.
Bon, c'était un set d'entraînement. Et c'était mardi. Non, c'était mercredi, pardon. Il a pu jouer le double mix avec Serena, donc il a retrouvé un peu l'atmosphère des cours, mais bon, quand tu joues en double et en simple, ça n'a rien à voir. On va être fixé très vite, puisqu'il va jouer lundi contre un garçon qui est dangereux, Roman Safiulin, le russe. Alors, il a pas un classement extraordinaire. Je crois qu'il est 98 ou 99, faut que je vérifie parce que le classement a changé cette nuit.
Ça va aller à priori.
Mais c'est un garçon qui avait battu Shelton, par exemple, à Wimbledon, tu vois. Donc il y a un gros danger parce qu'on ne sait pas où il en est. Est-ce qu'il est capable de servir à fond? C'est une vraie question. Moi, je pense que non. On me dit aussi qu'il a mal au coude. Donc la première semaine va être très dangereuse pour lui. Moi, je l'ai dit dans cours numéro 1, je pense qu'il passe pas la première semaine.
Notre podcast planté, tennis. Hein. Ah ouais, oui, bien sûr. Non, mais en tout cas, tu nous dis que tous les voyants sont loin d'être au vert sur les échos que vous avez.
Il a pas joué depuis 4 mois et demi.
Et pour Djokovic, alors, parce que Djoko, on le sait, il est à la recherche de son 25e grand chelem. À chaque fois, quand il manque un des cadors, on se dit, et si c'était la fenêtre pour Novak Djokovic, pour le Serbe, qu'on n'a pas vu en grande forme sur la tournée américaine. On a été impacté lorsqu'il s'est fait sortir sur son entrée en lice à Cincinnati, souvenez-vous. Est-ce que lui, on a des infos aussi? Qu'est-ce qu'il dit en conférence de presse? Est-ce qu'il va falloir compter sur Djoko, sur l'US Open?
Alors hier soir, effectivement, il était en conférence de presse. Il a dit, bon, c'est vrai que j'aime pas perdre au premier tour, c'est jamais agréable. Mais il a dit, c'est là qu'il est fort, il a dit, finalement, j'ai eu 2 semaines d'entraînement. Donc, il a pu bosser comme il le voulait. Et puis surtout, je sais pas si t'as noté, et je sais pas si c'est une demande de sa part, il va jouer en night session ce soir, par hasard. C'est-à-dire qu'il va éviter les grosses chaleurs, même si aujourd'hui
il fait
pas très très chaud.
Les grosses chaleurs.
Oh là, c'était terrible, hein. Mais Cincy, parfois, ça peut être redoutable, à savoir le cocktail chaleur plus humidité. Ça peut, si t'es pas prêt physiquement, c'est comme un cycliste dans un col de première catégorie, c'est défaillance assurée.
Non, mais là, je t'écoute parler de Djokovic, je t'écoute parler d'Alcaraz. Zverev n'a pas fait une grande tournée américaine. Il y a une fenêtre là pour Arthur Fils. Alors, on va dire qu'il va gagner l'US Open, évidemment. Mais en tout cas, pour faire quelque chose, peut-être cette année.
Mais il a employé un beau terme, hein. Il a des cartouches. Ouais, bien sûr qu'il y aura une fenêtre, mais il faudra répondre présent. Maintenant, attention, moi je pense que les Américains vont être très très forts. Ça fait 2003. Depuis 2003, il n'y a pas un Américain qui est capable de gagner l'US Open, c'était Andy Roddick. Et là, ils sont nombreux, hein. Fritz, Shelton, Tiafoe. Tommy Paul, Nakashima, et je peux même rajouter Lerner Tien. Ça fait beaucoup de prétendants au titre et ils vont être soutenus comme des fous parce que un Américain qui joue la Night Session ici à Flushing, c'est un spectacle extraordinaire. Et si on se projette assez loin, il y a un potentiel Shelton fils dimanche prochain en huitième de finale. Oh, là, et moi, je suis prêt à parier que ce serait un Night Session.
Ce serait un Night Session et ce serait un grand spectacle, évidemment. Ça, c'est pour le tableau masculin, très ouvert, on l'a dit. Ce sera peut-être un des plus beaux grands chelems de la saison, d'ailleurs, hein, tellement il est ouvert sur le papier. Chez les filles aussi, c'est très ouvert, parce que, celles qui lead aujourd'hui le classement WTA, sont en forme ou en méforme pour certaines. Mais puis surtout, il y a une Française qui a pointé le bout de son nez, c'est Diane Paris, qui a gagné à Monterrey un WTA 500 hier. On a écouté Arthur Fils là. Est-ce qu'il faut avoir des ambitions pour Diane Paris à l'US Open? Lesquelles?
Mais Diane Paris est en train d'exploser, c'est bien, parce que on savait qu'elle avait un potentiel immense, elle était très forte chez les juniors, elle avait battu Krejcikova, Roland Garros il y a quelques années, et moi j'avais dit à l'antenne, je m'étais peut-être emballé que c'est la nouvelle Amélie Mauresmo, parce qu'elle a un merveilleux revers à une main.
Elle a été la meilleure française cette année à Roland Garros aussi, hein.
Voilà.
Cette année.
C'est en train de prendre forme, elle a fait beaucoup d'efforts sur le plan physique, un peu comme Arthur Fils, donc c'est vraiment une athlète très très compacte maintenant, et puis elle a une arme extraordinaire, c'est je parlais de son revers à une main, mais elle est capable de slicer, et ça les filles en face elles aiment pas. Les filles, c'est boum boum, hein, c'est beaucoup de rythme, et quand t'as une fille en face qui brouille les cartes, c'est très perturbant. Donc là elle est 31e mondiale ce matin. Mon seul problème, c'est que malheureusement elle est programmée dès demain à Flushing Meadows pour jouer une Suissesse, Victoria Golubic, et elle l'a dit en conférence de presse au Mexique, elle a pas pu prendre un vol hier soir, donc elle est partie ce matin à 5h du matin avec une escale, et elle est même pas sûre de pouvoir taper à Flushing mardi, lundi, avant de jouer son match.
Ah, donc elle va y aller direct en fait,
l'expression jouer en sortant de l'avion, c'est quasiment ça.
Ah oui, il faut pas que ça soit un problème. Hein. J'espère que les raquettes seront à l'arrivée sur les valises, hein, parce que sinon ça va être compliqué. On a présenté cette US Open, on va retrouver Mario Bartoli dans un instant, évidemment. Juste le live rapidement, Eric, ouais. Arthur Rinderknecht notamment, ça se passe vraiment très bien pour lui dans le quatrième set. Hein.
Ouais, ça va beaucoup mieux pour Arthur Rinderknecht qui est largement en tête. Donc 2-7-1 pour le Français, 4-1 dans le quatrième set, ça va passer. Il a un potentiel rendez-vous au troisième tour contre Medvedev ou Hugo Gaston, on le souhaite bien sûr. Et en revanche, Hatman est mené 5-3 par Romain Mounard, et Medvedev et Gaston sont à l'échauffement sur le H.
Ok, on va suivre ça évidemment avec toi Arthur Fils, je rappelle ce sera demain, vous l'avez écouté dans Bartoli Time, vous pouvez écouter en podcast évidemment, et nous envoyer vos messages sur WhatsApp au 06 12 424 424 pour participer ou nous dire ce que vous faites en écoutant Bartoli Time. Tiens, j'ai Seb qui me dit: Marion, toujours au top de ton émission, je suis en direct de l'île de beauté, on a une petite photo. Bah oui, Marion c'est chez elle ça aussi, hein. On va la retrouver tout de suite dans Bartoli Time sur RMC, restez avec nous, on va aller à Monaco pour parler de Monaco-Marseille et on va prendre des nouvelles de Tadej Pogacar également, à tout de suite.
RMC, 19h30, 20h30, Bartoli Time, Georges Quirino,
Marion Bartoli.
20h04 sur RMC, c'est Bartoli Time. Marion nous a permis d'avoir Arthur Fils en début d'émission depuis Flushing Meadows. On la retrouvera dans un instant, évidemment, dans les travées de l'US Open pour la dernière partie de l'émission. Dans un instant, on va prendre des nouvelles également de Tadej Pogacar. Vous savez qui a chuté hier, c'est l'image choc du week-end. Le maillot rouge de la Vuelta qui a dû renoncer et qui est à l'hôpital aujourd'hui, devrait être opéré normalement demain. On aura des informations avec Mauro Gianetti, le patron de l'équipe UAE, qui nous rejoindra. Marion Bartoli de retour avec nous. Marion, t'es là?
Oui, je suis là.
Bien sûr.
Très animé.
Je suis Meadows, on le sait. Hein. Voilà, mais quand on a gagné un grand chelem, forcément, on est demandé à droite à gauche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça ne m'arriverait pas si j'y étais, moi. Hein. C'est comme ça. C'est ça qui nous différencie. La Ligue 1, Marion, tu reviens pour la Ligue 1. Tiens, comme par hasard, tu reviens pour l'Olympique de Marseille.
Exactement.
On va en parler dans un instant, qui s'est déplacé à Monaco. La deuxième journée, qui est s'achève aujourd'hui sur RMC. Je vais donner le résultat de la journée. Vous savez qu'il n'y a plus de multiplex, hein, c'est le samedi soir. Maintenant, aujourd'hui, le Paris FC a écrasé Nice 3-0 et on a eu un match complètement fou entre Rennes et Le Mans. Victoire 3-2 avec un doublé d'Esteban Le Poll notamment. Ce soir, donc, Monaco-Marseille à 20h45 à Louis II, où nous attendent Aurélien Tiercin et Maxime Tilliette. Bonsoir, messieurs.
Salut les amis.
Salut, bonsoir à tous.
Bonsoir messieurs.
Je vous pose d'abord la traditionnelle question. Vous avez toujours pas les compos, hein? On a un peu de retard.
Merci, à l'instant.
Elles viennent de tomber.
La science du timing. Est-ce qu'ils attendaient Bartoli Time, c'est ça? Merci,
voilà.
Merci, merci la Ligue.
Oui.
Merci. Bah allez-y,
vous écoute.
Dites-nous.
Et bah, côté Olympique de Marseille, Bruno Genesio s'appuie sur ce qu'il a, tout simplement sur ce qu'il a encore sous le coude. Il va mettre les plus expérimentés entre guillemets, Geoffrey Delang dans les cages, Egan Riley, Kondogbia dans l'axe de la défense comme la semaine dernière contre Strasbourg, Emerson qu'on annonce sur le départ libre, certain en tout cas, il est bien là, bien titulaire avec Timothy Weah, le capitaine sur le côté droit. Dans le cœur du jeu, on va retrouver Pierre-Emile Højbjerg avec Quinten Timber, lui aussi en partance vers la première ligue mais bien titulaire à Monaco, avec Imad Abdelli, Angel Gomez en position de numéro 10 et les deux Amine devant, Guéry et Amine Harit.
Et du côté monégasque pour Philippe et Louis, on reconduit le 11 qui a démarré face au Górnik Zabrze jeudi soir et qui s'est assez facilement imposé face aux Polonais. Système en 4-2-3-1 avec Lucas Radetzky dans les buts, la défense de droite à gauche avec Vanderson, Sadibou Sané, Eric Dyer et Flavio Nasinho à gauche. Au milieu de terrain, la doublette Zakaria Camara, en numéro 10 Alexander Golovin le russe, sur les ailes à gauche Idumbo, à droite Koulibaly et en pointe Paris Brunner, ce qui laisse sur le banc, on sait, quelques cartouches, notamment Mika Biret ou encore Mathis Sabline, la recrue la plus chère de l'été monégasque.
Restez avec nous les gars, supporters marseillais, on vous attend au 32-16 puisqu'on va parler de votre club. Le mercato s'achève ce mardi à 19h59 très précisément, Marion, et l'OM, je crois que tu as dû faire les comptes, hein, n'a toujours pas la moindre recrue, c'est une folie, hein. Là, le gendarme financier du foot français a contraint Marseille a baissé drastiquement sa masse salariale pour respecter les règles, hein. Voilà, les départs de Greenwood, Medina, Rudy, Aubameyang, Traoré, Nadir ont renfloué les caisses. Dernière en date, Balerdi parti aujourd'hui à Rome. D'autres vont peut-être suivre. L'OM est la seule équipe de Ligue 1 de ne pas avoir recruté. Jean-Claire Todibo, le défenseur de West Ham visé par l'OM, a choisi Lens aujourd'hui. C'est l'information RMC Sport qu'on vous a donnée ce matin. On va écouter Bruno Genesio dans un instant, qui était en conférence de presse hier. T'es inquiète pour Marseille là, Marion? Est-ce que la saison de Marseille se joue dans les 48 heures là, avec la fin du mercato pour toi?
Oui, bien sûr, je suis extrêmement inquiète parce qu'on va l'entendre d'ailleurs de la part de Bruno Genesio. En fait, le problème, c'est que lui-même est totalement abasourdi par tous les problèmes financiers qu'à l'OM actuellement, et donc le problème de son effectif qui est totalement quasiment vidé, en particulier ses meilleurs joueurs. Je pense qu'il n'avait pas pris conscience, ou en tout cas peut-être qu'on ne lui avait pas non plus totalement expliqué l'ampleur du problème et les difficultés. Alors après, ce qui éventuellement peut se passer, c'est qu'en fait le directeur sportif de l'Olympique de Marseille ait des accords de principe de deux ou trois joueurs, et qu'en fait ils attendent d'en vendre assez pour avoir le droit de pouvoir en faire venir, et qu'éventuellement sur les dernières heures du mercato, tout s'agit.
Mais là tu vois bien, Marion, Todibo, que Todibo par exemple, Todibo s'est dit je vais plus attendre, hein.
Non, donc, mais je sais, mais peut-être qu'il y en a un ou deux et ça va suffire, tu vois. Mais je pense qu'il faut,
il
faut
que les supporters leurs aussi, donc
oui, non mais ça bien évidemment, mais après je pense qu'il faut vendre cette année aux supporters comme une année de transition. En fait, c'est une année où il faut renflouer les caisses sur le plan financier. C'est une année où il va pas falloir attendre grand chose sur le plan sportif, mais en revanche que le club reparte sur un équilibre financier qui lui permette ensuite d'avoir un avenir, en fait, parce que au final quand on est sous surveillance financière de cette façon-ci, avec notamment des salaires qui sont capés, bah, au final en fait le club est totalement en survie et mis sous perfusion. Donc il faut arriver à assainir tout ça pour pouvoir repartir sur de bonnes bases.
C'est quoi, il faut pas être ambitieux à Marseille cette année, c'est la Ligue des Champions,
ça va être très difficile d'être ambitieux. Très très difficile d'être ambitieux. Je pense qu'alors Lyon il y est arrivé, mais bon, Marseille n'est pas Lyon non plus, c'est pas le même contexte, la pression du supporter c'est pas la même. Moi j'ai hâte franchement d'entendre les supporters de l'Olympique de Marseille, mais je vous avoue que je suis très inquiète. Ouais. Mais le dossier essentiel pour moi, c'est d'arriver à garder l'entraîneur, parce que si en plus tu perds ton entraîneur, là, ça va être la catastrophe.
Justement, Bruno Genesio, la question lui a été posée, est-ce que si les choses ne vont pas, est-ce qu'il peut penser, ne vont pas dans le mercato, en tout cas s'il perd beaucoup de joueurs, est-ce qu'il peut penser à une démission, Bruno Genesio?
Quand vous êtes entraîneur, vous avez envie d'avoir les meilleurs joueurs possibles pour conduire un projet ambitieux. Lorsque vous venez entraîner l'Olympique de Marseille, vous venez pour de l'ambition, pour vivre des émotions. C'est avant tout pour ça que je suis venu. Donc forcément, si vous perdez vos meilleurs joueurs et que vous ne pouvez pas les remplacer, le projet il est plus difficile à conduire. Mais lorsque vous êtes entraîneur, vous êtes aussi responsable. Vous devez de respecter les gens avec qui vous travaillez. Je suis là pour préparer le match de Monaco à 100%. On fera un point après le mercato sur les forces de l'équipe. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas d'actualité sur une éventuelle démission.
Pour l'instant, il n'y a pas d'actualité sur une éventuelle démission. Max Tilliette, c'est toi qui étais à la conférence de presse de Bruno Genesio. Tu l'as senti tendu, inquiet?
Inquiet, oui, pas tendu, pas encore. En tout cas, il a donné rendez-vous à ses dirigeants après le mercato pour refaire un point et réévaluer les objectifs. Donc, ouais,
oui,
c'est
quand même.
Il dégage toujours sa sérénité. Voilà, il est posé, il est sûr de ses forces et de ses propos. Mais il sent quand même que voilà, c'est compliqué. D'ailleurs, il est très honnête et très transparent dans ses propos, ce qui voilà peut-être ne plaît pas non plus forcément à une direction qui aurait préféré de la langue de bois et cacher le fait que y ait cette situation aussi compliquée à gérer sur les dernières heures d'un mercato. Alors que bon, les joueurs sortent à l'instant à l'échauffement, les supporters marseillais étaient interdits de déplacement, le parquage sera vide, mais on a quand même entendu à la sortie pour l'échauffement des
oui,
joueurs
toujours.
Olympiens qu'il y avait quelques Marseillais qui étaient là pour donner un petit peu de la voix et encourager leurs joueurs.
Marion, ça t'inquiète, ouais, Bruno Genesio. Alors c'est vrai qu'il est il est pas langue de bois, hein, Bruno Genesio. Il aime bien dire, il avait dit il y a quelques jours, souvenez-vous, quand Pierre-Emile Hulbert était proche de Newcastle, enfin en tout cas le club avait un accord avec Newcastle, finalement Hulbert a dit non, il a pas voulu partir et le brassard de capitaine lui avait été enlevé, oui. Et Bruno Genesio a soutenu son joueur en disant que c'était pas son choix à lui, donc contre sa direction. Voilà, Bruno Genesio, il montre quand même sa personnalité.
Oui,
ça peut être exclusif aussi, hein.
Oui, puis il a raison, de toute façon, s'il veut arriver à s'imposer à Marseille, il faut qu'il montre de la personnalité. Mais en fait, ce qui m'inquiète, si tu veux, Georges, c'est un peu le double effet qui se coule. C'est-à-dire que tu as eu la première interview de Mehdi Benatia lorsqu'il quitte l'Olympique de Marseille en révélant beaucoup de choses, en particulier des réunions en interne, etc., où il avait l'impression, enfin, on a eu la sensation, en tout cas, que lui avait été surpris de beaucoup d'éléments et qu'on lui avait caché beaucoup d'éléments. Ça, c'est la première chose. Donc,
C'est vérité à lui.
Voilà. C'est vérité à lui, mais en tout cas, c'est ce qu'il exprime. Et puis ensuite viennent là s'enchaîner toutes les déclarations de Bruno Genesio. On voit quand même et on sent un certain doute, on peut dire, au moins exprimer ce mot-là, sur beaucoup d'éléments, notamment les éléments financiers, puisqu'il dit qu'en fait, pour que recruter, il faut vendre beaucoup de joueurs et qu'il faut qu'il y ait une quantité assez importante de départs. Pas seulement un départ pour pouvoir faire une arrivée. Donc c'est ça, moi, qui m'inquiète, en fait, c'est de se dire jusqu'à quel point il faut, entre guillemets, vider le réservoir de l'OM pour arriver à recruter. C'est ça le souci. C'est qu'en fait, on a l'impression qu'il y a un tel gouffre financier, un tel déficit, qu'on n'en voit pas le bout. Et ça m'inquiète très très fortement. Si au moins on nous disait, bah voilà, tant qu'on en aura vendu une certaine masse, là on va pouvoir recruter, là on va pouvoir construire, bah à la limite on envisagera un avenir. Là le problème, c'est que j'ai l'impression que tout le monde est dans le flou, qu'il n'y a pas de chiffres extrêmement précis, qu'on voit beaucoup de joueurs partir, qu'on en voit pour l'instant en tout cas aucun venir, et quand on a un entraîneur qui a des déclarations, on se dit on sait vraiment pas s'il va rester jusqu'à la fin du mercato.
C'est un peu
et pour
tout ça,
bien évidemment, ouais. Je suis très inquiet.
Tiens, on a Loïc, supporter marseillais, qui nous appelle au 32-16.
Petit détail de contexte, Georges, et Bruno Genesio qui vient juste d'arriver pour donner une interview au diffuseur et qui, en marchant une cinquantaine de mètres au pied des tribunes, a été chaleureusement acclamé Bruno par les supporters marseillais qui font quasi tout leur espoir sur ses épaules, et donc une seule envie, c'est qu'il reste en poste.
Important de montrer l'affection, effectivement. Exactement. Tiens, Loïc, supporter marseillais, nous appelle au 32-16. Salut Loïc.
Salut à tous. Bonsoir Marion.
Salut Loïc, bienvenue dans Bartoli Time.
Merci.
Alors, est-ce que tu es inquiet de cette situation?
Ah oui, évidemment. Et puis, enfin, je pense que tous les supporters de l'OM sont inquiets par cette situation, parce que comme tu l'as dit, on n'annonce pas de chiffres, mais à la limite, est-ce que c'est une mauvaise situation, je crois pas. Ce qui est flippant, c'est qu'on va arriver lundi dans le Monday Time, comme dit Steve, et puis on va être obligé de vendre peut-être un Bacchao qu'on a acheté 35, peut-être que Sunderland, s'il revient avec 20, il prendra l'avion et on partira avec 20.
Et ouais, parce que Loïc, plus on avance, et plus en fait les autres clubs, ils sont pas idiots, hein. Ils savent que Marseille a besoin de vendre, donc ils vont peut-être devoir solder dans les dernières heures du mercato, hein. C'est ça qui te fait peur.
Exactement. Moi, c'est surtout ça. Et puis, comme dans le très justement rappelé Marion il y a quelques secondes, c'est qu'il faut 4-5 départs pour peut-être avoir un prêt.
C'est ça, moi, qui m'inquiète.
Alors, si on peut rester avec l'effectif tel qu'on l'a, peut-être un départ de plus, je sais pas moi, un Kondogbia ou un Minarit ou, enfin, tu vois, des joueurs comme ça, mais pas de Chao, si tu l'as pas, ça va nous piquer les fesses, parce que devant, le but quand même, le plus dur, c'est de marquer des buts. Donc, ça va être extrêmement compliqué, quoi.
Et Loïc, t'écoutais Marion tout à l'heure parler effectivement de cette saison marseillaise, des ambitions. Qu'est-ce que vous, supporters, vous pouvez avoir comme ambition pour votre équipe? En fait, à partir de quel moment vous allez être exigeant cette année? C'est quoi votre exigence? La Ligue des Champions, l'Europa League, une saison de transition, comme l'a dit Marion?
Alors aujourd'hui, je vais te répondre que c'est les trois premières places, voire la quatrième, max. mais mardi matin ou mardi soir, peut-être que je te dirais, ben en fait, on va viser les 7 premières, quoi. Ah oui. Si tu perds pas Chao et mettons Guiri, parce que c'est quand même des joueurs qui ont qui sont bankable, qui ont une grosse cote sur le marché. Mm. Si tu perds ces deux éléments-là, même s'il y a des joueurs derrière qui vont arriver, peut-être en prêt, des jeunes de qualité, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des jeunes de qualité qui sont sur le banc, notamment le petit jeune là qui a marqué une vingtaine de buts avec l'attaquant de la réserve, Valero, je crois que c'est son nom. Bref. Ça reste des jeunes et tu peux pas peut-être faire et la Coupe d'Europe et la Champions League, oui, qui est d'ailleurs peut-être sur le départ, mais je lui souhaite de signer à l'OM parce qu'on a besoin de tout le monde en fait.
Bah, vous avez besoin de tout le monde, effectivement, dans cette Olympique de Marseille.
On aura besoin d'un gardien aussi. Ouais. C'est possible.
Merci Loïc d'avoir été avec nous au 32-16 Monaco-Marseille, 20h45.
Merci beaucoup,
avec vous.
Loïc.
Les gars, au Louis II, évidemment, Loïc au 32-16 d'avoir été avec nous. On le remercie. Les gars, on vous retrouve dans un instant parce qu'on va prendre des nouvelles tout de suite de Tadej Pogacar. Vous savez qu'il a chuté hier sur la Vuelta, il a dû abandonner avec une blessure assez importante. On parlait peut-être d'opération demain à Barcelone. Et on va prendre des nouvelles tout de suite. Marion, avec son patron d'équipe, Mauro Gianetti est en direct avec nous dans Bartoli Time. Marion, je te laisse l'accueillir.
Bonsoir Mauro, merci infiniment d'être avec nous. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir ce soir. Vous savez
merci,
à quel point
bonsoir.
Je suis fan de Tadej, on l'avait d'ailleurs reçu dans l'émission dans Bartoli Time pour un interview exceptionnel. Ça a été l'image vraiment choquante du week-end de sport, de voir cette chute absolument incroyable de Tadej sur la Vuelta. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner des nouvelles, parce qu'on a vu qu'il a publié lui-même une photo sur ses réseaux sociaux, on le voit sur un lit d'hôpital avec une minerve, des pansements, mais quand même avec le sourire, comment va-t-il ?
Oui, bah, il va bien dans la situation qu'il est, parce que bien sûr, le choc était grand. Déjà abandonner la Vuelta sur une chute dans un endroit ou au moment qu'on s'y attend pas. Donc apparemment c'était une caméra sur la route, quelqu'un l'avait perdu. Mais il a fait une commotion cérébrale assez importante. Mais aujourd'hui il est bien, il est du bon moral quoi. Donc malgré tout il dit bon, ça pouvait être pire parce que c'est toujours ça qu'on regarde. Au premier moment, quoi. Donc, mais c'est vrai que, bon, donc, il faudra maintenant attendre que la commotion cérébrale rentre un peu. Et puis, probablement, si tout va bien, mardi, il pourra être opéré à la clavicule parce que la clavicule, elle est déplacée. La cassure est déplacée, donc, il faut une opération assez importante. Et donc, ça, ce sera possible que mardi ou mercredi, en dépendance un peu de la récupération sur la convention.
Alors Mauro, vous l'avez évoqué, c'est certainement un bout d'une caméra ou en tout cas un chargeur d'une caméra qui est tombé par terre. Je pense que ça a été un choc pour lui, pour Tadej, pour vous, pour toute l'équipe de le voir comme ça faire ce soleil avec cette chute dans une Vuelta qu'il dominait totalement. Il avait 3 minutes 50 d'avance. Est-ce que vous avez eu très peur?
Oui. Bien sûr, parce que quand on voit les coureurs tomber, on le sait que les vitesses ils sont tellement élevées qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'ils tombent, ils se font mal. Et honnêtement, quand j'ai vu que quand même il s'est relevé, il voulait quasiment reprendre la course. D'un côté, j'étais un peu soulagé parce que j'étais OK, il est debout, il marche, il voudrait continuer. C'était clair qu'il pouvait pas. Mais on a peur parce que en regardant surtout les étapes de plat, quand il y a des grandes vitesses, des grandes lignes droites où tout le monde se sent bien, parce que quand on est dans la roue, on se sent quand même bien à l'aise et on a envie de être devant, de forcer, et tout le monde a le droit d'y aller devant et de forcer, de faire la course. Ça fait peur parce que ça frotte et il y a tellement de haut niveau, tout le monde est tellement bien que ça vient de plus en plus difficile et les chutes ils sont quand même assez importants quoi.
Bien sûr.
On est avec
bien
Mauro Gianetti, le patron de Tadej Pogacar dans Bartoli Time. On prend des nouvelles, vous nous avez donné des informations, donc opération de la clavicule mardi ou mercredi. C'est à Barcelone hein, c'est ça Mauro hein.
Oui, il est à Barcelone.
Vous êtes avec lui ouais. D'ailleurs vous...
Oui, je suis à l'hôpital, je suis venu aujourd'hui pour passer la journée avec lui.
D'accord. Est-ce que vous avez discuté, alors évidemment l'important c'est sa santé,
bien sûr
Mauro hein, et on y pense tous aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez déjà parlé de la suite de la saison avec lui? Est-ce qu'il renonce à la fin de saison? Il y a les championnats du monde, il y a le Tour de Lombardie, il y a les championnats d'Europe qui sont chez lui en Slovénie. Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Est-ce que vous en avez parlé avec les médecins? Est-ce qu'on va revoir Tadej Pogacar sur un vélo les prochaines semaines?
C'est quand même assez tôt de le dire, donc on a essayé d'éviter la discussion aujourd'hui parce que ça serait quand même pas le bon moment pour prendre des décisions. Donc déjà, il faut voir un peu la récupération et surtout l'opération, comment elle va être, l'opération si mardi, si mercredi. Et à partir de là, on aura un cadre un peu plus clair. S'il y aura le temps pour revenir sur la saison ou si ça sera pas le cas, ça on pourra aborder ce discours-là avec un peu plus de calme et avec aussi un Tadej qui est complètement disons au moins récupéré de la commotion cérébrale. C'est pas le moment d'émotion de pour penser ces décisions. Donc,
bien sûr.
Il faudra attendre quelques jours.
Après, voilà, c'est le 27 septembre, la course pour le maillot arc-en-ciel pour qu'il garde sa tunique. Vous êtes conscient que le délai est très court quand même, j'imagine.
Oui, mais bien sûr. Là, honnêtement, c'est vraiment très court. 4 semaines, il est ici à l'hôpital, il n'a toujours pas encore été opéré. Donc, bien sûr, ça paraît pas évident de pouvoir récupérer en temps pour le champion du monde. Mais bon, on va voir un peu avec l'évolution les prochains jours. Mais c'est sûr que la chute, elle était une chute assez importante. La fracture à la clavicule, elle est assez mauvaise parce que nécessite d'une opération assez sérieuse. Et donc ça aide pas quoi.
Marion.
Oui, après le plus important là vraiment c'est sa santé. Au Suisse, son intégrité physique. C'est un immense champion, il aura le temps de revenir. Je pense que déjà le message qu'on veut faire passer aussi c'est qu'on lui souhaite le plus grand des rétablissements. On le suit avec toujours beaucoup de patience sur RMC, on sait à quel point il a des fans dans toute la France et dans le monde entier, donc on voulait déjà surtout prendre de ses nouvelles et s'assurer qu'il aille bien, et on est quand même rassurés en vous entendant.
Merci, moi et Tadej,
j'ai eu la chance de l'interviewer, Mauro, et ce qui m'avait vraiment marqué, c'est son immense mental et sa capacité à se donner des objectifs et bien évidemment à les réaliser.
Et à se relever.
À se relever, exactement. Je pense qu'en tant que super champion, il désira remporter cette Vuelta et justement revenir sur cette Vuelta et là, pour la gagner un jour. Vous pensez que ça sera son état d'esprit également?
Mais bien sûr, parce que c'est pas simplement un champion, c'est un immense champion. Donc il aime ce qu'il fait, il adore ce qu'il fait. Et maintenant, bien sûr, c'est difficile aujourd'hui d'accepter un peu la situation, quoi qu'il a quand même assimilé parce qu'il se rend compte. Mais bien sûr, son objectif, c'est de revenir au meilleur niveau. Et c'est à nous aussi, je crois, nous comme équipe, le public, de pas ne prétendre qu'il soit aujourd'hui, demain ou après-demain, mais qu'ils reviennent en pleine santé. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est la responsabilité de tout le monde de sauvegarder les qualités de ce immense champion qu'on a la chance de voir courir depuis quelques années. Donc, c'est vraiment très important qu'on lui reste tout près et qu'on lui mette pas de pression. Au contraire, qu'on le laisse tranquille. De être lui-même, parce que c'est quand il est lui-même, c'est là qu'on voit le vrai champion.
Bien sûr. Dernière question, Marion.
Mauro, oui, effectivement, ma dernière question, parce que vous l'avez évoqué, Tadej est un immense champion, et un immense champion qui ne tombe quasiment jamais, en tout cas, il n'avait jamais abandonné dans un grand tour. Je crois que sa dernière abandon, c'était sur un Liège-Bastogne-Liège, il y a quelques années. Est-ce que ça a été un choc psychologique extrêmement intense pour lui, ou finalement il se dit c'est la faute à pas de chance avec cette batterie d'un photographe qui est tombé et s'est remis de ce choc psychologique?
Parce qu'il n'est pas habitué à tomber, Tadej Pogacar, Mauro, c'est ça aussi?
Exactement.
Non, c'est vrai, parce qu'il est vraiment très attentif, il est déjà très bien sur le vélo et très attentif. Là, c'est vraiment quelque chose d'inattendu, parce que quelque chose sur la route qu'on s'y attend pas, parce que si on est sur le pavé, on le sait, donc on a le guidon à la main bien fermé, mais quand on s'y attend pas, et en plus il avait une main seule sur le guidon, parce qu'avec l'autre il était en train de chercher le bidon pour boire un coup, et donc c'est pour ça que juste à ce moment là le guidon il lui est parti de la main, il est tombé. Donc c'est bien sûr, il était il était surpris, donc il n'est pas choqué parce que bon, il dit bon, au niveau aussi un peu mathématique, ça doit arriver. Et puis après, ça arrive avec une chute moins ou plus grave. Ça aurait été bien si c'était une chute différente et moins grave, bien sûr. Et donc, il le sait que c'est quelque chose qui c'était pas possible de contrôler, quoi. Donc ça, c'est déjà quelque chose que. Parce que comme il était derrière ses copains, il ne pouvait pas voir la route, s'il y avait quelque chose sur la route. Et ce n'était pas quelque chose de grand, donc c'était presque pas possible de le voir. Donc, ouais. Et c'est arrivé juste le moment qu'il avait une seule main sur le guidon. Donc c'est une tête de choses qui sont passées tous au même moment, quoi.
Merci infiniment, Mauro. Je sais que vous êtes avec lui, donc transmettez lui du fond du cœur de tous les auditeurs d'RMC, de ma part, le plus prompt des rétablissements. C'est un immense merci. Champion. On est persuadé qu'il reviendra extrêmement fort. Et merci de votre temps. C'est vraiment extrêmement gentil d'être venu chez nous ce soir. Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci beaucoup. Mauro Gianetti, donc le patron de l'équipe de Tadej Pogacar, qui nous a donné beaucoup d'informations ce soir sur la santé de Tadej Pogacar. Oui. Exactement, tu as raison de le préciser, Marion. Donc, opération de la clavicule mardi ou mercredi à Barcelone pour Tadej Pogacar. Voilà, Mauro Gianetti nous a dit quand même que c'était quand même une opération assez compliquée, hein, parce qu'il est quand même assez bien touché au niveau de la clavicule. Pour l'instant, ils n'ont pas évoqué ensemble la suite de la saison, la fin de la saison, parce que c'était pas encore tout à fait le moment, ils sont encore dans l'émotion, mais on a bien compris et il a bien dit, Mauro Gianetti, que 4 semaines pour les championnats du monde, ça semble quand même très court pour Tadej Pogacar, donc pour aller défendre son maillot arc-en-ciel. Voilà, vous avez eu des informations ce soir de première main, hein, Marion, grâce à toi, grâce à Mauro Gianetti, Arthur Fils qui nous a donné ses ambitions tout à l'heure en début d'émission pour l'US Open.
Au cœur du US Open.
C'est Bartoli Time, c'est comme
C'est Bartoli Time et à l'instant, Terence Atman vient de remporter le premier set également, 7 jeux à 6 face à l'Espagnol Munar, dont toutes les actions vraiment se passent et sur oui. Bartoli Time.
Vous et allez Arthur retrouver. Arthur Hinderknecht est qualifié aussi.
Exactement, et Arthur Hinderknecht est qualifié. Vous allez retrouver tout de suite Aurélien Tiercin et Maxime Tillet pour ce fameux match entre Monaco et Marseille dans l'After Live. Merci Georges pour cette émission, encore une fois extrêmement animée, vraiment au cœur du cœur du cœur de l'action. C'est ça aussi la promesse de Bartoli Time, c'est vous amener avec nous là où tout le sport dans le monde entier se réalise tous les jours, ce sport qu'on aime tant. Je vous retrouve avec un immense plaisir dans Bartoli Time le week-end prochain. Entre temps, c'est bien l'écoute d'RMC. Bonne soirée à tous. Au revoir.
RMC Bartoli Time.